Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Allez, on continue à parler de la réforme des retraites, de cette adoption hier, de ce recours hier au 49-3. On l'a dit, il y a eu des manifestations assez violentes un petit peu partout en France, sous les yeux parfois de touristes médusés. D'ailleurs, Rémi, comment ces manifestations, comment la situation française est vue à l'étranger?
Mais la situation, elle est vue sans pitié pour l'exécutif et pour le gouvernement. Le recours au 49-3 annoncé hier est largement condamné. Le New York Times estime ainsi que cette décision va certainement enflammer un peu plus le climat politique en France déjà lourd d'une confrontation tendue. Bon, ça n'a pas manqué. Le journal allemand Der Spiegel évoque, lui, une décision brutale, alors que le quotidien espagnol La Vanguardia y voit un signal de faiblesse politique.
Ah oui.
Le président français joue un poker géant pour le journal belge Le Soir et risque de finir comme un canard boiteux. Voilà ce que dit le quotidien britannique The Guardian. Le même Guardian, journal de gauche, un pro-travailliste en Grande-Bretagne, salue à l'inverse le sacré combat mené par les syndicats français. Et salue également leur unité.
C'est beau. Ça fait plaisir d'être bien dans cette belle image à l'étranger.
Ce qui est bien, c'est que les touristes, si jamais ils sont menacés par des violences, ils peuvent s'abriter derrière des tas de sacs poubelles.
C'est important. Est-ce que c'est un total fiasco ce qui s'est passé hier, Laurent Dandrieux?
Oh bah oui, je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est pas ça ne restera pas un cas d'école de brillante manœuvre politique. Cette réforme des retraites, c'est quand même une catastrophe absolue. Moi, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on Macron n'avait pas repris le projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup moins choquant
de 2019,
de son premier quinquennat qui serait passé beaucoup mieux à mon sens, même si un projet de réforme des retraites, ça ne passe jamais bien par définition. Ce qui me paraît certain, c'est que effectivement le quinquennat en tant que possibilité de gouverner me semble avoir maintenant une toute petite fenêtre de tir qui est très faible, qui est qu'il faut qu'il réussisse à tenir bon sur cette réforme, parce que s'il lâche après ce fiasco, je pense que le quinquennat est terminé, il n'y a plus qu'à baisser le rideau et à passer à la suite. Donc ça sent pas très bon. Est-ce que Elisabeth Borne doit démissionner? On en parlera plus tard.
Voilà, exactement. Est-ce que c'est entièrement de la faute du gouvernement, tout ce qui se passe, Emmanuel Dancourt, ou les syndicats notamment ont aussi un rôle là-dedans?
Moi, c'est ce qui attire mon attention, pour être tout à fait honnête, c'est les Républicains. Parce qu'on a des Républicains qui sont scindés, on a deux groupes de Républicains, on va dire grosso modo, si je veux schématiser un peu, mais c'est ça, on a les anciens avec Éric Ciotti, on a les nouveaux, les plus jeunes, avec Aurélien Pradier, et finalement, c'est les Républicains qui ont un peu, pardon de le dire comme ça, mais qui ont un peu foutu la merde aussi. Parce que c'est une réforme à la base, qui portait finalement pas tant que ça, et les motions de censure. Moi, j'attends lundi avec une certaine impatience. A priori, on se dit que les motions de censure vont pas passer, mais après tout, on n'en sait rien.
On disait aussi qu'il n'y aurait pas de 49-3.
Il faut 287 voix, donc si la NUPES y va, si le RN y va, si le fameux LIOP, là, donc Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire y vont, il faut encore 30 députés LR, et aujourd'hui, il en manque 20. Donc on ne sait pas. Et est-ce que finalement la faute, elle n'est pas à chercher du côté des LR? En plus, ils disent pas la même chose. Éric Ciotti, il dit on votera aucune mention. Et puis on a d'autres à côté qui quelques secondes après disent si, nous on va voter. Pour moi, le point de fracture, il se situe chez les LR.
Je vais quand même revenir à ma question initiale, tout de même, parce que voilà. Fred Hermel, est-ce que pour vous, quand même, c'est entièrement la faute du gouvernement ce qui s'est passé hier, le fait d'avoir recours au 49-3 parce qu'ils ont mal mené cette réforme, ou ça, tout le monde s'accorde à dire que quand même, ils ont plutôt mal discuté, ils l'ont mal amené et ils l'ont mal expliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs de la part d'autres camps?
C'est bien entendu, quand tu es au gouvernement, que tu as quand même une majorité, pas absolue, mais relative.
Ouais,
c'était quand même, on dit toujours le gouvernement pas de majorité. Si, le gouvernement a une majorité relative au Parlement. Que tu discutes pendant des semaines et des semaines.
175 heures de discussion.
Voilà, et que tu n'es pas capable de faire les bons comptes et de rallier à ta cause une mesure qui est Je suis un peu d'accord avec Emmanuel. Au départ, les LR, ils sont, ça fait 30 ans qu'ils sont pour la, pour l'abaissement de l'âge de la retraite, quoi. Donc, là aussi, ils n'ont, politiquement, ils n'ont pas réussi leur coup. Mais finalement, ce quinquennat est le premier et le deuxième est marqué par le manque d'expérience politique des gens qui composent. C'est-à-dire qu'il y a.
Ça c'est la faute d'Emmanuel Macron, excusez-moi.
Mais bien sûr,
il veut aussi prendre des seniors, plutôt que d'aller prendre des bébés, quoi.
Ben voilà, il a pris des techniciens parce que l'État, c'est moi, comme disait
Mec 14. Les bébés, c'est Olivier Dussopt?
Voilà.
Non, mais pas du tout. Non, mais des gens avec moins d'expérience.
Mais bien sûr, parce que la société civile, c'est très bien.
Le cabinet de conseil, ça fait pas tout, hein. Quand vous allez expliquer une réforme des retraites aux Français.
De jeunes représentants de la société civile, c'est très bien pour l'image, sauf que dans le combat dur, le combat de tranchée de la politique, les mecs sont pas préparés. Quand on a vu, par exemple, lors de la défense des retraites, l'ancien ministre de la culture, dont le nom est
Franck Riester,
qui s'est écroulé devant Aurélie Casse ici, dans cette maison sur BFM TV, qui ne connaissait pas bien la réforme, qui s'est expliqué par un journaliste la réforme et qui est incapable de dire combien de personnes vont bénéficier des 1200 euros. Enfin, je veux dire, la politique est un combat aussi. Il faut y aller armé.
C'est pas que les technocrates.
Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont pas assez préparés. Donc, oui, le fiasco, il est avant tout du fait de ce gouvernement et surtout du président de la République. C'est lui qui a choisi les gens qui sont là, donc.
Mais il y a eu des fiascos de communication évidents, mais la base du problème, c'est que le projet lui-même à la base était mal ficelé et que donc ils se sont emmêlés les pinceaux d'autant plus volontiers qu'ils avaient à défendre un texte qui donnait l'impression d'être improvisé, incohérent et pensé dans l'urgence. Donc c'est ça l'erreur de base, c'est effectivement d'avoir on a l'impression que après la réélection d'Emmanuel Macron, ils ont bricolé dans l'urgence une nouvelle réforme des retraites qui n'était pas la même que celle du coup d'avant et qu'elle a été pensée trop vite et trop mal.
Mais après, Olivier Dussopt, est-ce qu'il avait les épaules, même s'il est très bien, il tient la barre, etc. Est-ce qu'il avait les épaules pour mener cette réforme qui, normalement, est la réforme phare d'Emmanuel Macron? Est-ce que tu pouvais pas aller chercher un ténor à la base, pour mener cette réforme, et quelqu'un, un personnage qui puisse être aimé des Français, pour mener ça à bien? C'est aussi une question.
Et puis, il y a un truc. Enfin, Macron avait un allié merveilleux. L'un des mecs les plus intelligents de l'espace public français, c'est Laurent Berger. Laurent Berger, vous vous souvenez de Nicole Notat,
qui est
à SFDT, qui négociait avec le gouvernement. Elle a négocié avec Sarko. Laurent Berger était le guide, en fait.
Mais oui.
Était le guide. Et Macron, là aussi, il l'a méprisé. À un moment, il l'a méprisé. Et ça se paye dans la rue. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Cette incapacité à faire confiance à des gens qui connaissent le monde du travail, qui sont appréciés du peuple, qui apportent. Vous vous souvenez, Sarko et Nicole Notat, tu dis c'est pas possible ensemble. Et pourtant ils ont travaillé ensemble. Alors, tu vas pas me dire que Macron, qui est quand même un mec de droite, faut pas arrêter, c'est un libéral.
Oui.
je veux dire, c'est un libéral, c'est-à-dire que s'il peut pas négocier avec un syndicat réformiste comme la CFDT. Donc à partir du moment où la CFDT a été à côté de la CGT, c'est qu'il y avait un problème.
Ouais. Et d'ailleurs, Laurent Berger est peut-être le grand gagnant de cette réforme des retraites, parce que déjà, on a vu que lui, il a plutôt crevé l'écran. On va terminer avec Amadou, qui nous appelle de Nogent-sur-Marne et qui est commercial. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour.
Amadou, c'est un fiasco. Ouais, très bien Amadou. C'est un fiasco pour vous ce qui s'est passé là, hier?
Un fiasco total. Entre le porte-parole du gouvernement Véran, Elisabeth Borne qui faisait le tour des médias, la tournée des médias en début de semaine pour nous expliquer, vous inquiétez pas, on aura une majorité, on n'a pas de joker, carte joker 49-3 dans la manche, donc du coup pas besoin de recourir au 49-3, on a une majorité avec le vote LR, et au final on arrive à un 49-3 qui est tellement violent. Moi tout à l'heure vous parlez du débat sur la violence dans la rue, moi je comprends, c'est-à-dire que moi je ne tolère pas la violence dans la rue, j'ai vu des images, franchement, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait autant de violence. Mais moi, par contre, je comprends les gens qui ont commis des violences, parce que cette violence-là, pour moi, c'est une continuité avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes depuis 2018. Macron, c'est un destructeur social. C'est quelqu'un qui, depuis son mandat, il a pas arrêté, justement, de matraquer le côté social.
Ouais, c'est un peu dur ce que vous dites, parce qu'il a multiplié l'échec, quand même, ces derniers mois, pour aider les Français face à l'inflation. Il a aidé les entreprises pendant le Covid. C'est un peu dur de dire ça, quand même, Amadou.
L'échec, ce sont des chèques passagers.
Regardez le Covid, Amadou.
Les cadeaux qu'il a fait au patronat, ce sont des cadeaux qui sont qui sont dans le temps.
Mais la taxe d'habitation aussi dans ces cas-là, Amadou. Taxe d'habitation pour les Français à la fin de la redevance.
L'échec, je crois qu'il en coûte. Au bout d'un moment, il a laissé arrêter. Ça n'allait pas être un quoi qu'il en coûte.
Bah, encore heureux.
Encore heureux parce que c'est avec nos impôts. Donc ça n'allait pas être un quoi qu'il en coûte avant jusqu'à la fin de son mandat. Donc il a passé son temps à matraquer le côté social entre le truc sur le chômage là, la loi qu'il a fait passer justement par rapport au travail. Les 5 euros d'appel. Justement l'augmentation du carburant avec ce qui a poussé les gilets jaunes dans la rue.
Mais ça c'est pas Emmanuel Macron qui a fait augmenter le carburant.
La réforme de retraite. Mais si l'augmentation du carburant là en 2018 quand il a voulu le faire l'augmenter avec Édouard Philippe et ensuite les gilets jaunes sont sortis dans la rue, c'est Macron, c'est pas Macron.
Non, pas du tout. Les carburants augmentent, ils ont augmenté partout.
Je comprends, moi je suis de gauche, moi je comprends le côté écologiste. Qui c'est justement c'était la taxe.
Oui, c'est les taxes supplémentaires, d'accord.
Je comprends, mais c'est lui qui a voulu la faire passer. Ça a sorti les gilets jaunes dans la rue. Je vous le dis, depuis le début de son mandat, il matraque le côté social. Macron, ce qu'il prépare, c'est la venue de Marine Le Pen en 2018. Moi, je ne vois
pas. Je crois pas que ce soit son choix.
Je ne voterai jamais Marine Le Pen, mais s'il continue, vous allez voir, il va pousser des gens dans les bras de Marine Le Pen. Moi, jamais je ne voterai Marine Le Pen si je combats ce parti-là, mais je vous dis qu'il y a plein de Français. Moi, je connais plein de gens qui, aujourd'hui, ils se disent que pourquoi pas ce vote-là? Et pourquoi? Et
en plus. Mais c'est ce que disait syndicat également,
J'entends les médias. En plus, franchement, je vous dis un truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous commencez à m'énerver, les médias, parce que vous passez votre temps à taper sur la gauche en disant oui c'est Mélenchon qui pousse les gens à commettre la violence.
On n'a même pas parlé.
Ah non mais il faut pas toucher Marine Le Pen, faut pas machin. Mais par contre elle, vous continuez à la faire monter avec l'aide de Macron.
Enfin, c'est pas le but.
Justement attaquer sur le côté social des Français. Et elle va arriver tranquille en 2027. Et après en 2027 quand elle va arriver, on va nous expliquer que c'est à cause de l'immigration qu'elle arrive au pouvoir. Bon. Alors que c'est à cause du côté social qui fait que depuis 10 ans, Macron a tapé sur le côté social qui a fait que les gens ils sont partis voter pour Marine Le Pen.
Eh ben, merci beaucoup, Amadou. En tout cas, le coup de gueule d'Amadou aujourd'hui dans Estelle Midi.